peut-être commencer par des choses assez simples. C'est une fresque, enfin qui s'inscrit en tout cas dans le sillon des fresques scorsésiennes, qui sont généralement construites selon un principe qu'on appelle le rise and fall, c'est-à-dire en français l'ascension et la chute. C'est des films en deux parties, voilà, où on va assister au délitement d'un milieu ou d'une figure, et en même temps, ce schéma-là, qui est un peu considéré comme le maître étalon des scénarios de Scorsese, me semble être un peu une lecture un peu schématique de son cinéma, et je trouve qu'Aviator est un film passionnant là-dessus, puisque, évidemment, il est question d'ascension et de chute, voire même d'une trajectoire qui serait celle de la figure d'Icare. D'ailleurs, il y a quelque chose de profondément mythologique dans le film, hein, puisque l'aviation, le film n'en fait pas le secret, ce n'est rien que moins que la conquête du cosmos. Vous pouvez voir, par exemple, la vraie rupture chromatique du film, d'ailleurs, le moment où le film va changer de mode de couleur. Ça se passe dans le bureau de la Paname, qui est situé tout en haut d'une tour, où il y a des images de constellations sur le plafond, qui est filmé comme une espèce d'Olympe, dont Juan Trippé, donc, qui est le roi de l'aviation, est filmé comme un espèce de Zeus. Et voilà. Et puis, par ailleurs, l'avion que va lancer Howard Hughes, qui sillonne les États-Unis, est appelé la constellation. Et puis, son œuvre finale, son chef-d'œuvre, s'appelle Hercule. Donc, il y a vraiment cette idée que, par l'aviation, Howard Hughes va devenir un espèce de demi-dieu. Il y a vraiment une ambition cosmique et mythologique très forte dans le film. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que le film ne repose pas du tout sur une logique qui serait en gros l'ascension de cette figure de Howard Hughes et puis sa chute, mais qu'au contraire, en permanence, l'ascension et la chute s'entrelacent. Et qu'en fin de compte, il y aurait du rise dans le fall et du fall dans le rise en permanence, c'est-à-dire que même les moments de victoire et de conquête et d'ascension du personnage dans la première partie sont toujours teintés de quelque chose de morbide. Alors, vraiment, à partir de choses extrêmement simples, prosaïques, le titre de son premier film, Hell's Angels, les anges de l'enfer, voilà, la version française, donc déjà vraiment un titre qui est un oxymore en soi. Ah bah voilà, le deuxième micro arrive. Et puis même, vous pouvez voir des choses très simples dans la mise en scène, par exemple, quand ils font une réception pour la fin du tournage, qui d'ailleurs n'en est pas vraiment une, on a d'abord un plan sur une statue de glace. Donc le propre d'une statue de glace, c'est fait pour quoi ? C'est pour fondre. Enfin, c'est-à-dire, il y a déjà quelque chose voilà, qui est amené à disparaître. Et tout de suite, le mouvement de la caméra est balayé. Enfin, la caméra balaye la statue avec le mouvement d'une diablotine qui est en train de danser. Et on est déjà dans l'enfer. Voilà. Vous pouvez voir aussi la scène de première, c'est une scène de cauchemar. C'est une scène d'agression plastique.
Qui est censé être le moment d'habitude où le personnage scorsésien est assez satisfait lui, quoi. C'est
exactement. Là, il y a trop d'argent, il y a trop de lumière, il y a trop de personnes, il y a les ampoules qui jonchent le tapis rouge. C'est une scène d'agression plastique, c'est une scène infernale, c'est une scène en plus où le personnage fait étalage de sa surdité, qu'il entend mal, etc., etc. Donc en permanence, le film va entrelacer les deux strates. Et il y a un jeu aussi de résonance sur l'échelle du récit, c'est-à-dire je ne sais pas si vous vous souvenez, par exemple, la première scène où il commence à visionner des rushs de ce qu'il a tourné. Il y a déjà cette petite ampoule rouge. On est déjà dans son bureau qu'il va aménager quand il va devenir complètement fou, en étant nu, etc. C'est-à-dire qu'il y a déjà... Et d'ailleurs, il a des prémonitions, presque, de ce qui va lui arriver durant le film. Toute sa déliquescence est déjà là. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne assez chez Scorsese. C'est que, vraiment au-delà de sa maestria, enfin, du moins de son vernis stylistique de très pétaradant, c'est un cinéma profondément morbide. C'est un cinéma sur la déliquescence. Ça m'intéresse parce qu'un de ses films les moins connus et les moins appréciés, enfin les moins connus, en tout cas les moins appréciés, qui est Kundun, donc qui est un film sur le Dalai Lama, est un film qui met en scène notamment durant tout le récit l'édification d'un mandala de sable, c'est-à-dire ces espèces de grands dessins de tibétains qui sont peints très lentement, minutieusement, avec du sable, pour être immédiatement détruit lors d'une cérémonie. Et en fait, le cinéma de Scorsese a quelque chose de vraiment très étrange là-dedans. C'est-à-dire, il ne fait que construire des mondes, que construire des fresques, que de montrer l'ascension de personnages hors normes pour les voir chuter et pour filmer vraiment leur déliquescence. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dès le début, le film est malade. Dès le début, il y a quelque chose qui ne va pas. Dès le début, il y a un entrelacement de ces deux strates. Et ça, il me semble, en tout cas, Corentin, que c'est un peu... Alors, ça en fait à la fois un film parfait sur le cinéma Scorsese, mais c'est aussi un film qui est un peu à part dans sa filmographie sur cet aspect-là, du moins.
En tout cas, c'est peut-être le film de Scorsese le plus exacerbé sur ce que c'est que le rise and the fall. Ouais. On est vraiment dans un truc où on monte vraiment et on descend vraiment. Là, c'est assez littéral. Et vous avez, notamment au début du film, vous avez une petite scène où il est devant son projecteur. Et en fait, il explique un peu à son équipe comment ça marche, quelque part. Comment on filme cette scène d'aviation. Et à un moment, il dit, voilà, il manque des nuages à côté pour qu'on puisse mesurer la vitesse. Et on est en fait toujours dans cette logique d'un personnage, ou même, ça vaut pour le cinéma Scorsese en général, qui doit prendre en compte les deux faces de la même pièce. Pour aller vite, il faut qu'il y ait de la fixité derrière. Et même la fixité elle-même est en mouvement, c'est ce que le météorologue lui dit après, les nuages, ils bougent aussi. Donc quelque part, on est toujours dans ce rapport d'équivalence-là entre plusieurs forces qui viennent s'opposer. D'ailleurs, en revoyant le film, à la fin, ce même météorologue lui dit à quoi il y a un vent contraire. Au moment où ils sont en train de s'envoler avec le dernier avion. Et c'est quelque chose qui est structurant. Bon, ça, on n'est pas les premiers à le dire, mais il y a forcément ça dans tous les personnages de Scorsese. Ils partent d'un milieu, puis ils s'élèvent, puis il y a tout un jeu d'équivalence entre le moment où le personnage va embrasser cette vitesse, comme ça, qui va le faire dépasser différentes strates, et puis il va s'arrêter d'un coup. Hein, souvent, les personnages finissent en prison, sur un fauteuil roulant, dans le dernier film, dans The Irishman notamment. Et donc vous avez toujours ces jeux comme ça de dynamique, mais presque au sens mécanique, hein, c'est-à-dire que c'est des jeux de pulsion comme ça, à un moment il y a une scène, ça va aller très vite, la scène suivante, on va s'arrêter. Et je pense que si on part de l'intuition première qu'on a devant un film de Scorsese, qui est toujours aussi une impression un peu galvanisante, quoi. C'est un film qui est assez long et pourtant qui se regarde assez bien, parce qu'il y a une forme de rythme aussi qui se fait de scène en scène. Vous avez, si vous prenez la structure du film, c'est assez clair, c'est-à-dire que vous avez des scènes qui vont très vite, puis des scènes d'arrêt. Et quelque part, on vient toujours comme ça contrebalancer le moindre mouvement et suivi d'une forme de redescente, et en même temps, enfin de rechute. Et en même temps, ce que tu dis est très juste, c'est-à-dire que même dans la rechute, il y a des formes de mouvement. Même dans la fixité, il y a des formes de mouvement, etc. Enfin, il y a tout un jeu comme ça qui nous amène à nuancer en permanence le mouvement qu'on voit. Et voilà, vous avez cette scène au début qui est une espèce d'exposé, un petit peu théorique, mais qui est aussi un espèce de mode d'emploi de comment on met en scène ce mouvement-là. Et qu'est-ce que c'est le cinéma de Scorsese. Et j'ai remarqué aussi un truc, c'est-à-dire que quand vous voyez... c'est aussi un film qui parle de cinéma, forcément, mais ça, on va y revenir. Ça me semble assez évident qu'il parle de l'histoire du cinéma, mais qui parle aussi de ce que c'est le cinéma en tant que principe de moteur mécanique, c'est-à-dire c'est des images fixes qui donnent l'illusion du mouvement. Donc on est toujours dans ce rapport de diplicité-là. Et vous avez, alors c'est un truc qu'on voit souvent chez Scorsese, c'est des arrêts sur image. Et là, vous en avez un seul, qui est assez clair, c'est le moment où, après l'accident... Il est par terre en train d'agoniser, puis on lui prend en photo, et là, l'image s'arrête, et c'est ce qui va acter ensuite sa paralysie, quelque part. Donc on est toujours dans un mouvement qui il va trop vite, quelque part, avec son avion, il est arrêté, arrêt sur image, la scène d'après, dans son lit, il est alité. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça, de toujours un peu une sorte de balance, en fait, qui vient se jouer dans les films de Scorsese.
Non, mais c'est intéressant, parce que, sur ce que tu dis, sur l'entrelacement, en fait, de forces contraires, à la fois, ça va jouer sur différentes ruptures. En fait, le film va s'acter sur différentes ruptures, hein, parfois même de manière littérale. Quand, par exemple, Amber le quitte, l'écran est séparé en deux par cette flamme qui l'anime. Et en même temps, il y a des effets de télescopage, vraiment, d'entrelacement, de choses qui, a priori, n'ont rien à voir les unes entre elles. Alors, peut-être la chose la plus évidente, c'est quand Ward Hughes caresse le dos d'Amber et que, dans le plan suivant, il est en train de caresser la surface lisse de l'avion. Donc là, déjà, il y a quelque chose d'étonnant. D'ailleurs, c'est la quatrième fois que je filme, c'est la première fois que je le remarque, c'est qu'il féminise ses avions. Il fait « She's a good girl »,« She was incredible ».
Les sous-titres ne mettent pas ça.
Voilà, c'est-à-dire, les avions sont des femmes. Voilà. Il y a une équivalence très nette dans sa manière d'envisager les femmes et les avions. Et dans le même temps, il y a une manière très nette d'envisager, sur le même plan d'équité, le cinéma et l'aviation. C'est-à-dire que, alors qu'il est en train de travailler sur des avions, alors qu'il est en train de travailler sur des films, il est en train de travailler sur autre chose. Et ça, c'est quand même intéressant, c'est qu'on en arrive un peu à ce qu'on vous annonçait avant la séance sur la question des couleurs, c'est que sur l'aviation et sur le cinéma, il y a en fin de compte le même horizon, c'est-à-dire que c'est embrasser le bleu, d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand on voit des images, les films sont toujours bleus, que ce soit les plans du Bani, que ce soit les plans de Hell's Angel, et évidemment tout cet espace de la projection où le personnage essaie presque de capturer l'essence chimique de ce que serait le divan. Vraiment, c'est l'essence du ciel serait retrouvée dans le cinéma. Et il y a un plan qui le dit très nettement, notamment dans la scène du procès, c'est quand il est sur point de commencer son discours, et il y a un bref arrêt dans le montage, et on voit un plan un peu coupé en deux, où au premier plan, en fait, il y a le moniteur, en quelque sorte, d'une caméra qui est en train de le filmer, qui est en bleu, et lui est de l'autre côté, et il regarde la caméra, quelque part, la caméra le regarde. Il y a tout un jeu, d'ailleurs, de vampirisme là-dessus, sur les images.
D'ailleurs, dans cette scène-là, je l'ai remarqué aussi, quand vous avez plusieurs fractures qui se font comme ça, une même scène qui se répète avec un moment, à chaque fois une caméra qui vient s'immiscer au montage, et en fait, son costume est de plus en plus bleu. Mm-hmm. Il arrive, il est un peu vert, en ressortant, il est un peu bleu, et justement, la scène suivante, ça va être quoi? Un avion entre ciel et mer, et donc là, le bleu a envahi un peu tout l'écran, et quelque part, comme s'il avait retourné le dispositif médiatique contre la personne qui l'attaquait au début, et il se réapproprie le bleu, et on voit à la fin, il y a un petit détail, quand le sénateur du Maine est acculé quelque part, vous avez un petit photographe qui s'immisce dans le cadre pour le prendre en photo et le flash est comme ça renvoyé. Enfin, c'est intéressant du coup, juste.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a des. Et ce que je disais sur l'idée qu'en fin de compte, on est sur une même logique d'ascension et de chute. Sur ça, le film est très clair, hein, sur les enfers, sur le rouge, qui est une couleur récurrente dans le cinéma de Scorsese. Hein, c'est aussi la couleur de la dernière tentation du Christ, quand le Christ est sur sa croix. Le monde devient rouge et il s'imagine une vie possible. Donc ça, le film le dit dès le début, hein, c'est-à-dire que l'enfer et le ciel sont entrelacés, qu'on ne peut pas envisager l'un sans l'autre. Ce qui est étonnant, et ça, je pense que, bon, on l'a un peu annoncé, mais moi, ça me frappe encore plus là quand je vois le film, c'est qu'il faut attendre 50 minutes. 50 minutes pour qu'apparaisse du vert. C'est-à-dire que durant tout le début du film, en fait, le film reproduit ce qu'on appelle un technicolor bichrome, c'est-à-dire qu'il n'applique que du vert et du rouge. Alors, bizarrement, en fait, tout est bleuté. Tout est bleuté, c'est-à-dire il n'y a rien de vert, la pelouse est verte, les arbres sont verts, les fleurs sont vertes, la betterave, enfin, est bleue, je veux dire, pardon. Tout est bleu. Même le blanc est bleu. Enfin, tout est bleuté.
Les petits pois, quoi. Ça, c'est vraiment le truc, on dirait, oui, des cachets. Enfin, il y a un truc.
Les petits pois, c'est très étrange. Oui, quand Errol Flynn prend un petit pois, en effet, il est bleu. Il faut attendre, le vert apparaît au moment où le personnage a fait son tour du monde et qu'on est justement dans le bureau de la Paname, qui est un endroit assez bleu, mais où il y a déjà du vert sur le côté. Et puis le grand assaut, ce qui est une scène, moi, que je trouve très étonnante, mais justement parce qu'il joue sur ces grands écarts, c'est la scène où il va à un dîner de famille, il rencontre les parents de sa compagne, et là, on a une grande pelouse.
Et burn, du coup. Ouais.
Exactement, on a une grande pelouse, tout est vert, c'est une scène d'agression, et en plus, il y a ce détail, mais alors, il y a deux, trois plans qui insistent assez quand même sur cette dimension-là, c'est que l'ex d'Ed Burn a une caméra et est en train de le filmer, et on voit que ça le dérange. Et on voit qu'il y a un processus, en tout cas, vampirique, c'est-à-dire qu'il n'aime pas quand il est filmé, et d'ailleurs, toute la scène, en fin de compte, de procès se joue là-dessus. C'est comment, tu le disais très bien, retourner les flashs contre ceux qui nous filment. Et puis, évidemment, qu'est-ce qui est vert aussi dans le film? C'est la salle de bain. C'est la salle de bain, et en fait, ça va être toutes les traces de pourriture. C'est-à-dire que dans cette dynamique, en fin de compte, entre la chute et l'ascension, va se dégager quelque chose qui est là, en sous-main dans le film, et qui est un peu caché par cette espèce de folie du personnage qui est en train de conquérir le monde. C'est la pourriture de la maladie. Il y a aussi cette scène très étrange où il est en train de commander sa flotte d'avions, et son interlocuteur a un costume bleu, une cravate rouge, et il y a un tout petit point vert. Et ce tout petit point vert va complètement dérégler la scène et la transformer en scène d'horreur. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le film finit presque sur une musique de Shining. Hein. Il y a un moment où le film devient presque une forme de film d'horreur qui avance un peu masqué. Et sur ça, voilà, il y a des choses d'une finesse ou d'une, enfin, vraiment sur la synchronisation des couleurs.
En fait, ça se voit encore plus clairement parce qu'il retourne toujours une espèce de même bar là, le Coconut Club ou un truc comme ça, je sais pas si ça s'appelle.
Le vert apparaît au bout d'un
moment. Ouais. Et en fait, vous voyez la première scène au début, vous comprenez que c'est l'espèce de décor de jungle, évidemment tout est bleu, et vous avez la même scène où il fait la rencontre du directeur de Panam. Et dans cette scène-là, on voit bien que, au contraire, il y a beaucoup de vert derrière. C'est là qu'il va, la fameuse scène où il y a les toilettes et où, évidemment, il y a une petite tache de sang qui vient se mettre comme ça. Et ouais, ce vert, c'est une espèce comme de gangrène, en fait. Enfin, ça corrompt petit à petit chaque strate de l'image et c'est hyper...
Il y a une forme de métastase, d'ailleurs, ouais. sur la robe noire de sa compagne, une espèce de truc un peu trop luxuriant qui est bizarre. Et d'ailleurs, il y a une répartition des couleurs très étrange dans cette scène, puisque je ne sais pas si vous avez remarqué, mais donc, à la moitié du film, Eben le quitte. Il brûle ses vêtements et il brûle la couleur de certaine manière. C'est-à-dire qu'il apparaîtra toujours en beige ou en blanc. Et dans cette scène, il y a une redistribution de la couleur qui est assez nette.
Il commande un costume blanc, un costume noir.
Quoi. Voilà, c'est un costume beige et un costume blanc. Ouais. Et le but, voilà, c'est d'avoir le moins de couleurs possible, d'être le plus neutre possible. Et dans cette scène, évidemment, qui est en bleu, c'est le personnage qui dirige la Paname. Et la couleur n'est plus du côté, en fin de compte, du côté de Howard Hughes. Et ça, le film, voilà, va jouer sur des... Évidemment, il y a la scène avec Ava Gardner aussi, où quand il apparaît comme un espèce de fou qui met tout le monde sur écoute, tout est vert. Il essaye de l'acheter avec un saphir, donc la pierre la plus bleue, etc. Bon, ça, le film, voilà, va construire quelque chose vraiment en dialectique sur ces trois couleurs-là. Et puis, il y a quand même quelque chose d'intéressant sur cette idée aussi du rouge, du vert et du bleu, alors qui se joue sur un côté thématique, mais ce sont aussi les couleurs du tricolore. Et c'est aussi un effet de symbiose, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la synthèse additive, c'est-à-dire que le rouge, le vert et le bleu ensemble, à leur plus haut niveau de concentration, font du blanc. Et ça, je trouve ça intéressant aussi, c'est-à-dire qu'en gros, les scènes où les couleurs sont les plus intenses et où vraiment la destinée du personnage est la plus intense se matérialisent par des flashs blancs qui l'agressent. Il y a tout un truc sur la virginité aussi. Alors, par exemple, j'avoue que je ne sais pas exactement quoi faire du lait dans cette dynamique-là, mais bon, peut-être revenir à quelque chose de maternel.
Il y a un truc très oedipien.
Voilà, sur quelques points, il y a un truc très oedipien, la scène d'ouverture, le fait qu'en fin de compte, toutes ces scènes avec ses amantes rejouent une forme de scènes primitives, originelles, où il est lavé.
Les photos de poitrine, etc.
Il est nettoyé. Enfin voilà, il y a quelque chose là-dessus, c'est vrai, qui est assez psychologisant, d'une certaine manière. Et en même temps, voilà, avec derrière cette fresque, vraiment une espèce d'histoire une conquête du cosmos impossible. Enfin, il y a vraiment un horizon métaphysique qui n'existe pas forcément, je trouve, dans cette ampleur-là dans d'autres films de Scorsese, et qui surtout qui prend une forme vraiment malade. Moi, c'est ça, je trouve que une chose intéressante que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est un film qui, en fin de compte, est extrêmement bien rythmé, bien tenu, qu'on voit. Et en même temps, c'est bizarre. Moi, j'ai vu, je sais pas, la cinquième fois que je vois le film, et j'ai l'impression que c'est un coup sur deux. C'est-à-dire, un coup sur deux, je trouve le film complètement passionnant, mais un peu malade, les scènes se délitent, et d'autres moments, au contraire, où il y a une forme de tenue de la narration et où il y a cette espèce de maladie rampante. Et en fin de compte, je pense quelque part qu'on peut considérer le film sous ces deux aspects-là.
Le jeu joue des deux
aspects. Et le film joue sous ces deux aspects-là, oui.
Mais il y a toujours une forme de duplicité, en fait, quelque part. Dans toutes les images qu'on voit, vous avez un truc assez simple aussi, qui est une autre scène un peu tuto, quoi, si je puis dire, quand il est dans sa salle de projection. Et donc, quelque part, il se nourrit littéralement des images qui vont se projeter sur son corps. Et il dit le désert est propre. Et vous avez un raccord. Et le plan juste après, vous avez toutes les bouteilles de pisse à côté. Donc, il y a une forme de déchet qui vient se mettre dans la pureté des images, quelque part. Et vous avez toujours cette espèce d'addition ou de complémentarité, que ce soit des couleurs, que ce soit des mouvements ascendants, descendants, que ce soit de la dynamique d'arrêt ou de déplacement. Enfin, vous avez toujours comme ça ce va-et-vient qui est permanent.
Sur les images aussi, c'est contradictoire. C'est-à-dire qu'il veut les filmer, il s'en nourrit, en même temps, elle le brûle, de manière assez littérale. Là encore, c'est moins le feu de la carlingue, etc., qui l'embrasse, qu'en fin de compte, l'appareil photo et ses flashs qui lacère son corps.
Il y a plein de trucs un peu étranges, de toute façon, dans ce personnage qui est toujours dans un rapport, un peu maladif à tout ce qu'il va entreprendre dans sa vie. Et vous avez cette question de l'avion. Il faut toujours que l'avion soit beaucoup plus gros, etc., qui se rejoue exactement dans le cinéma. Il faut toujours que ce... Bon, là, c'est plutôt... non, mais je parlais pas de ça, mais c'est plutôt les films qui sont toujours, qui coûtent toujours plus cher. Il y a une forme d'inflation permanente qui finit toujours par se rétracter comme ça la scène d'après. Et je trouve que cette dynamique-là qu'on ressent intuitivement en voyant le film, elle se joue jusque dans des petits détails comme ça que tu as expliqué, l'espèce de... toute cette dichotomie qu'il y a entre les flammes et la glace, et d'un autre côté le rouge et le bleu, et vous avez toujours ce jeu très ludique en fait chez Scorsese, où quelque part les personnages vont devoir apprendre au fil du film à faire la part des choses quelque part, hein. C'est vraiment cette idée là de synthèse. Et dans la scène de procès, vous avez donc ce bleu qu'on se réapproprie petit à petit, on quitte le vert, et puis ça finit sur un grand flash blanc, vous avez le raccord et le voilà dans l'avion juste après. Donc il y a une forme aussi de résolution à ce niveau là qui est assez finement mis en scène, je trouve, et en tout cas plastiquement ça raconte quelque chose d'intéressant. Et d'ailleurs, on n'a pas précisé aussi que le film en fait essaie de respecter techniquement l'usage du Technicolor à l'époque, donc de 1926-27 il me semble, à 1930 c'était du bichrome, donc il manquait une couleur. Et à partir de 1930 vous avez du trichrome, et en fait le film n'est pas du tout tourné avec ces technologies là qui est retouché numériquement, toutes les couleurs sont touchées numériquement, mais arrive à la fois faire un film sur l'histoire du cinéma, un côté un peu pédagogique, vous avez Errol Flynn, Catherine Hepburn, Ava Gardner, plein de stars de l'époque, et en même temps va vraiment faire un film avec des processus techniques, et ça c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément souvent chez Scorsese, mais là qui est intéressant.
C'est vrai que la bascule se fait de manière assez fine, parce qu'il passe d'abord par un reportage d'images en noir et blanc, donc on repasse en plus à une lumière un peu sombre dans le haut de l'immeuble, dans le haut de la tour Paname, donc on ne voit pas forcément qu'en fin de compte, on a changé légèrement de palette graphique, et qu'on a quitté cette espèce de bleutement permanent qu'il y a durant les 50 premières minutes.
C'est intéressant parce que le film bascule narrativement à ce moment-là, il bascule aussi plastiquement. Les deux vont en même temps, tout le temps, dans ce film-là, et c'est intéressant quand même au niveau de l'histoire du 20e, il y a ce côté-là, à un moment ça bascule quand on arrive à faire le tour du monde, en même temps qu'il est en train de faire le tour du monde, il est en train d'appeler, de négocier un contrat, on est dans une sorte aussi forcément du mythe, espèce de mythe du self-made man qui est récurrent chez Scorsese et qu'il aime bien toujours... il aime bien jouer avec, quoi. Il aime bien aussi le faire vaciller quelque part. Mm-hmm. Vous avez toujours des personnages qui finissent recroquevillés, enfin, Howard Hughes. Évidemment, c'est pas un film qui est très fidèle au niveau de la chronologie de sa vie, mais c'est toute cette phase de confinement où il a fini par avoir 40 kilos, c'était plutôt à la fin de sa vie. Il a fini par mourir dans cette chambre-là. Enfin, y a quelque chose comme ça de très maladif, comme tu dis. Je sais pas si vous êtes... si vous avez des...
On a un peu déroulé, là. Passer la parole, s'il y a des questions, des observations, des désaccords...
Oui, moi, j'aurais peut-être une question sur un détail technique, peut-être, mais qui m'a interrogé, c'est par rapport à la lumière, où il y a deux plans un au début et un à la fin, où il y a quasiment une sorte de mise en lumière ou d'extinction de lumière, mais de plateau. Par exemple, le premier plan au début, où il est dans le sort de cabaret et où on le voit de dos devant toute la salle, et la salle est éclairée tout d'un coup, et où à la fin, c'est la toute fin dans les toilettes, où il y a la lumière derrière lui qui s'éteint, et en fait, il y a une sorte de presse de mise en focale, mais artificielle, par les lumières et par l'environnement autour de lui. Et du coup, je m'interrogeais sur cet élément-là, vu que c'est au début à la fin, ça a l'air d'être quelque chose d'assez structurel. Et du coup, je me demandais ce que ça disait sur le film, techniquement.
En fait, ça arrive à d'autres endroits. Ça arrive aussi quand Ava Gardner revient chez Hughes et essaye de le raser, etc. Et au moment où elle le quitte, en fait, c'est son reflet qui la quitte. Ça, c'est assez beau, d'ailleurs. C'est une image qui la quitte. Elle n'a pas réussi à garder l'image. Et autour de lui se fait le noir. C'est aussi une manière de dire la lumière disparaît, mais aussi la couleur disparaît. C'est-à-dire, le personnage se retrouve tout seul. Il y a ce même effet. Alors, moi, je n'ai pas pu... Alors, c'est un peu ça. La différence aussi, c'est que la copie est en 35. Le film a été restauré depuis. Et sur la lumière ou sur la couleur, ce n'est pas exactement pareil. Sur la version restaurée, il y a aussi un effet de variation de couleur sur en fait, les murs jaunes de cette espèce de salle de bain, de toilette publique où il finit par se retrouver, qu'il y a une lumière bleue de l'extérieur qui tapisse un peu, qu'il y a un moment, le bleu et le jaune mélangés font une espèce de lumière verte avant que justement il se retrouve dans le noir. Donc il y a quand même cette idée-là, c'est-à-dire qu'il y a une forme de vide qui se crée autour du personnage, le monde disparaît, et on revient aussi à cette scène très étrange, on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est la scène d'ouverture, qui est une scène de trauma, qui est une scène primitive, originelle, et en même temps qui est une scène d'apocalypse. C'est une scène de quarantaine, on est en train de laver son corps, et on a l'impression qu'il n'y a rien, le monde s'est arrêté, et puis hop, il est lancé dans son épopée, on comprend très vite que ses parents sont morts, il n'a aucune attache par rapport à ça, il sera très peu de questions de sa mère, voire pas du tout, sauf de manière allusive, on voit des échos dans les relations avec ses femmes, mais donc en gros, c'est une scène un peu hors du temps et de l'espace, qui elle aussi est dans une forme de pénombre, dans une forme d'intimité, où on retrouve aussi ce jaune, d'une certaine manière, de la scène de fin.
Je pense que sur les changements d'éclairage que tu dis, justement, je pense que ça vient de la première scène. C'est une sorte de réminiscence plastique de son traumatisme d'enfant qui raconte aussi le rapport un peu conflictuel qu'il a à la lumière. C'est-à-dire que soit il éteint la lumière derrière lui, soit c'est lui qui est mis en lumière. Vous avez aussi cet effet-là, quand il regarde Kate Blanchett qui s'illumine comme ça. Et vous l'avez aussi au moment où il vient se mettre son costume avant le procès. Toutes les choses comme ça, tout l'arrière-plan s'assombrit. Ouais. C'est vrai que c'est un effet qui revient quelques fois.
Et puis je pense que ces plans, il faut les articuler avec le fait qu'à un moment, il y a un trop plein de lumière. Il y a le blanc qui vraiment inonde l'écran et qui le paralyse, etc. De la même manière que, si vous avez remarqué, alors c'est assez intéressant, d'ailleurs, quand on voit le film, il y a des moments où parfois il répète de manière a priori complètement anodine une phrase, mais c'est des premiers signes de dérèglement. Et c'est toujours quand il y a une petite salissure, une petite trace, une présence un petit peu étrange. Puis avec, en fin de compte, d'une certaine manière, la gangrène aussi se matérialise par ce blanc vers la fin du film, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnages dans l'arrière-plan qui ont des gants blancs. Il y a tous les gens de son bureau d'ailleurs, et donc il y a une forme là, le film représente dans une forme de délire conspirationniste où on lui voudrait personnellement du mal. Et donc il y a cette espèce d'emprise du blanc qui, je pense, à mettre en parallèle là encore. On en revient sur la question des dynamiques contraires. Le fait qu'il y ait trop de lumière ou qu'il n'y en ait pas assez, c'est aussi quelque chose par lequel le film va construire et faire perler vraiment la folie de son personnage.
Oui, quelque part, c'est un personnage qui vit dans un film aussi, en permanence, qui a l'impression que les autres jouent à sa place quand il dit ça à Catherine Hepburn, qui est face à lui. Puis en règle générale, de toute façon, il y a tellement d'effets différents, de mouvements de caméra différents chez Scorsese, que c'est compliqué, ça peut être compliqué de trouver un système à partir de là. C'est-à-dire que c'est toujours, disons, un cinéaste qui va varier les plans. Il n'y a pas un plan Scorsese, on pourrait en trouver si on comptait, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'effets différents. Et à chaque fois qui veulent pas forcément dire la même chose, mais vous avez aussi cette espèce de comment on appelle ça, de double, de split screen un peu masqué là, parce que c'est même plus des doubles focales, c'est une espèce de split screen au moment où quelque part vous avez le personnage de Juan Tripp qui quelque part lui prend un peu d'espace, enfin il y a quelque chose, mais vraiment dans le cadre littéralement, voilà, tous ces petits effets qui peuvent paraître un peu peut-être à première vue un peu gratuits. Ils viennent aussi s'inscrire dans une espèce de dynamique aussi de ce que racontent les scènes. C'est un cinéma qui est très dynamique, mais au sens presque mécanique. Il faut prendre aussi les différentes forces qui rentrent en présence et qui fonctionnent comme un espèce d'ensemble, comme ça.
Oui, d'ailleurs, c'est ce que tu disais très bien, c'est qu'à la fois, il veut que la surface des avions soit lisse. En même temps, il ne cesse de retravailler le montage de ses films. Enfin, vraiment, il y a un effet, évidemment, de parallélisme qui est creusé dans ces deux questions. Ce que je disais sur le côté... les choses s'entrelacent et s'équivalent, alors qu'a priori, ce sont des registres complètement distincts ou des horizons complètement distincts. Et en fin de compte, c'est la même chose. C'est un personnage aussi qui se crée son propre système jusqu'à une forme de folie.
Moi, j'ai juste une question concernant aussi le choix du casting. Alors, je ne sais pas comment il a été fait. Alors, je ne sais pas, c'est le premier ou le deuxième film avec DiCaprio, après Gangs of New York, peut-être, je ne sais pas.
Je crois que c'est celui, c'est le deuxième, ouais.
Ouais, voilà. Et en fait, c'est que j'ai l'impression que le film va jouer aussi quand même sur ce choix de casting, aussi sur le personnage, la manière de jouer des personnages aussi, et de jouer du biopic. Parce qu'il y a deux phrases qui résonnent un peu. C'est, je crois que c'est donc Kate Blanchett, Katharina Hepburn, qui dit à DiCaprio... le problème, c'est que tu es 100% Howard Hughes. Elle lui dit, enfin, c'est pas exactement.
Il y a trop d'Howard Hughes en Howard Hughes.
Ouais, voilà, Howard Hughes, exactement. Précis, ouais. Et même lui, il lui dit arrête de jouer constamment. Et même au début du film, on sent qu'il y a quand même un changement de jeu de la part de Kate Blanchett, où elle va surjouer même Katharina Hepburn de son apparition. Et ensuite, petit à petit, devenir plus sobre au moment où elle disparaît, notamment lorsqu'elle prise de rouge. Donc je m'étais demandé s'il y avait, je sais pas, quel était le jeu en fait qu'il utilisait ou. Quelle part il utilisait des acteurs ou de leur persona pour ensuite réinterpréter des stars hollywoodiennes, iconisées, etc.
Alors, bon, sur le casting, je ne sais pas exactement comment ça s'est fait. C'est un film qui a une gestation un peu particulière, puisque alors, vous l'avez peut-être vu en regardant le générique de fin, mais c'est un film que devait réaliser Michael Mann à l'origine. Il y a quelques reliquats, vraiment, dans la mise en scène de ce qu'aurait pu être le film par Mann, mais en gros, Mann venait de faire Ali et Révélation, je crois. Et il ne voulait pas faire un troisième biopic, il voulait enchaîner sur Collateral. Et donc, il propose à Scorsese de faire le film, ce qui est déjà arrivé dans la carrière de Scorsese. Scorsese, à un moment, devait aussi faire La Liste de Schindler. Et il l'a échangé avec Cap Fear, que devait réaliser Spielberg. Donc, ils se sont échangés les films. Voilà. Mais alors, je suis tout à fait d'accord avec Blanchett sur Hepburn. Moi, je la trouve un peu catastrophique dans les premières scènes, pour être honnête. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se dégage là, de cette espèce de cabotinage, de trop plein de jeux.
Elle le dit après, elle explique en sortant du repas, elle dit oui, voilà, mais on attend de moi que je sois d'une certaine image. Oui, oui. Enfin, il y a quelque chose de qui est conscientisé là-dessus.
Mais ça ensuite, elle a un jeu d'une technicité, mais DiCaprio aussi, d'une certaine manière. Et en même temps, ce qui est très bizarre, c'est par exemple, je crois qu'on n'a pas revu Alec Baldwin dans un film sérieux après ça, Les Infiltrés. C'est-à-dire que Scorsese est un peu le dernier cinéaste à avoir pris au sérieux Alec Baldwin. Et à part le Saturday Night Live, d'une certaine manière. Donc il y a comme ça des choses très étranges.
C'est celui qui joue
Ron Tripp. Voilà. Ouais, qui est devenu un acteur essentiellement de série. Hein. 30 Rock, c'est Ron Trippé techniquement dans le milieu de la télévision américaine, d'une certaine manière. Hein. Mais c'est vrai que c'est de la même manière. Il y a des acteurs toujours un peu parfois étranges dans le cinéma de Scorsese. Je ne sais pas s'il y aurait quelque chose à dire vraiment là-dessus. On peut parler peut-être un petit peu de DiCaprio. C'est vrai que c'est un moment où DiCaprio commence à se détacher un peu de l'image de ses premiers films, que ça soit même jusqu'à Titanic, on va dire. Il y a déjà un film qui est passé par là, il y a Gangs of New York, mais il y a surtout Catch Me If You Can de Spielberg, il est déjà très intéressant
dans
Titanic.
Déjà un film d'avion, du coup.
Mais voilà, qui est déjà un film d'avion, qui est déjà un film sur quelqu'un qui veut s'extérieur... Enfin, voilà, qui a des rêves d'ascension absolument délirants. Déjà... la fuite d'une scène... Enfin, il y a des liens peut-être sur les personnages à faire entre Catch Me If You Can et Aviator. Et puis oui, c'est les films qui commencent à casser l'image de DiCaprio, qui n'est plus un jeune premier. Alors ensuite, voilà, est-ce que... disons qu'il y a aussi un partenariat qui est en train de se créer, et en train de se nouer avec Scorsese à ce moment-là. Je ne suis pas sûr non plus que ça raconte spécifiquement quelque chose, de la même manière que surtout le côté un peu jeu hollywoodien... Il y a des acteurs connus de l'époque.
C'est pas le point du film qui me passionne le plus, par exemple.
Non,
parce que à la limite, les yeux de DiCaprio m'intéressent, parce qu'ils changent de couleur au fil du film.
Alors oui,
c'est très étrange.
C'est-à-dire qu'il a les yeux bleus, par moments, sur certaines scènes, par rapport à l'éclairage, on dirait qu'il a les yeux verts. Non, c'est très curieux.
En fait, au début, ils sont bleus, ensuite, ils sont petit à petit verts, et ils redeviennent bleus à la toute fin, quand vous avez ce gros plan-là.
Mais alors, si je peux peut-être faire juste une petite référence là-dessus, c'est que je pense que presque le cabotinage joue en faveur du film, puisqu'il y a des scènes quand même. Qui montrent vraiment Hollywood comme un truc dégénérescent. Par exemple, l'espèce de bataille qui est en train de se jouer entre Errol Flynn et celui à qui il a piqué sa chaise. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la scène se finit sur une espèce de danse de Saint-Guy de la part du crooner qui est dans la salle. Et d'ailleurs, il va plusieurs fois sur le côté complètement exacerbé des chants, des danses, mais qui filme de manière un peu dévitalisée. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il le filme pour filmer, regardez ma fresque historique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose déjà... pas de parodique, mais d'un peu dégénérescent, d'un peu... Hollywood est un peu une forme de cloaque, d'une certaine manière. Et donc, peut-être, d'une certaine manière, le début du jeu de... Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que le jeu d'Hepburn est complètement désarticulé sur la scène de golf, et en même temps, l'herbe est bleue. Voilà. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse complètement retrancher ces deux éléments. C'est-à-dire qu'il faut les prendre. Il y a plein de choses qui ne vont pas, d'une certaine manière, dans cette scène. La balle aussi. Je ne sais pas si vous avez vu la trajectoire de la balle, qui est complètement artificielle. Il y a plein de choses qui sonnent faux. Il y a plein de choses qui paraissent étranges. Lui est complètement en retard par rapport à la conversation. Il a ses lunettes de soleil, etc. Je pense que là, on peut dire que les jeux des acteurs et la bizarrerie de certains jeux d'acteurs participent de l'étrangeté de certaines scènes. Voilà. Est-ce qu'ensuite, il y a une réflexion plus globale sur le casting et le Hollywood de cette époque ? Je ne suis pas complètement certain. Mais en tout cas, oui, on peut voir à quel moment... notamment le jeu de Blanchette, parce que les modulations sont les plus visibles, voilà, va selon les scènes produire quelque chose de différent.
Sur DiCaprio, après, il y a ça, quelque part le film qui aussi annonce tous les films suivants où il y aura leur collaboration, c'est-à-dire qu'il pose aussi les jalons de ce que ça va être le jeu de DiCaprio. Je sais pas, dans Wall Street par exemple, vous avez des scènes qui sont carrément, qui évoquent tout de suite toutes les scènes de rupture par exemple. Vous les retrouvez plus tard, la façon dont il va jouer, la façon dont il va se contorsionner à tel ou tel moment du film. Vous l'avez par exemple au moment où il se fait prendre une espèce de cendrier, je sais pas ce qu'elle lui balance à la tête, mais voilà, vous avez une forme de fébrilité qui s'installe chez un acteur qui est encore jeune à l'époque. Donc c'est ça qui était intéressant, c'est qu'on va tout de suite essayer de ramener cette espèce de figure angélique, quoi.
Vers
le bas, en fait. Il y a quelque chose comme ça, je trouve.
Pour répondre à la remarque, c'est quelque chose qui c'est vrai que DiCaprio est un acteur qu'on a beaucoup vieilli, c'est un acteur qu'on a beaucoup enlaidi ou dont on a filmé la déliquescence. Je pense aussi qu'il y a un cas qui d'ailleurs avait fait un peu... Enfin, je pense qu'il avait été un peu mal compris, c'est le jet de garde de Clint Eastwood, où il a un maquillage complètement outrancier qui le défigure. Maquillage qui n'est pas sans évoquer, d'ailleurs je trouve, le maquillage des personnages à la fin d'Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, dans le sens où on voit que c'est du maquillage. C'est pour montrer vraiment le visage presque momifié. Et sur ça, oui, c'est vrai que, par exemple, Scorsese est visiblement fasciné par DiCaprio, mais il ne cesse, en fin de compte, de l'amocher, de le filmer dans une pleine déliquescence, en descente de drogue, complètement carbonisé, complètement nu, hirsute, les ongles longs. Donc oui, c'est vrai que c'est quelque chose, presque, on veut extraire la beauté de ce corps naturel et un peu la maltraiter.
Ouais, typiquement dans la scène de l'accident.
Ça, ouais.
Ouais, voilà, il est vraiment lacéré, il y a quelqu'un qui vient lui prendre en photo ce corps-là à tel moment. Et vous avez exactement la même chose, dans le Wall Street, la fameuse scène des escaliers.
Shutter Island aussi.
Ouais, quelque part, ouais.
Tous les films de Scorsese et DiCaprio travaillent un peu cette question. Gangs of New York étant un cas un petit peu à part.
C'est moins une question qu'une remarque sur un élément que vous avez évoqué. Effectivement, il y a un sous-texte oedipien assez clair dans le film, un sous-texte psychanalytique, mais que je trouve assez bien amené parce qu'il est travaillé par un réseau de mise en scène qui est assez fin, je trouve. La première scène qui est donc clairement une scène originelle, quoi. L'enfant Howard Hughes est placé au milieu de la scène et il est dans une espèce de petit baquet d'eau qui est complètement circulaire, donc il est déjà dans une espèce de bulle à l'intérieur d'une scène qui est elle-même une bulle à l'intérieur du film. Et j'ai l'impression que tout au long du film il va essayer de retrouver cet espace originaire en se remettant dans des espaces circulaires et fermés sur eux-mêmes. L'exemple le plus frappant étant cet avion avec lequel il a un crash, et au moment du crash son visage va se frapper contre la bulle de verre qui l'enferme et qui va se reproduire quand il arrivera à l'hôpital, où il sera de nouveau encadré dans une espèce de bulle de papier et de plastique qui protège ses bandages et son corps. Donc d'une certaine manière il y a une sorte de radicalisation dans le film, je trouve, d'une dimension qui est présente souvent chez Scorsese. C'est celle que ce sont des films mentaux d'une certaine manière. Au fond, Taxi Driver était déjà un film sur un homme qui avait une perception du monde qui était coupée du réel parce qu'il était dans un taxi pendant une heure et demie. Là, c'est un type qui va, au bout de sa trajectoire, s'enfermer dans une salle de cinéma, dans une salle de projection pour se couper du réel et aller vers une image idéalisée du monde qui serait un désert où tout est propre. Donc, en ce sens-là, effectivement, c'est un film qui est très outrancier, je dirais, dans ce que Scorsese travaille de plus psychanalytique. Mais en même temps, c'est celui qui clarifie peut-être le plus cette dimension-là de son cinéma.
C'est intéressant ce que je dis parce que c'est vrai, je suis complètement d'accord avec cette analyse, et en même temps c'est vrai que ce sont des choses qui sont déjà là depuis le début. Par exemple, il y a des choses, quand vous voyez Taxi Driver, il y a un moment il fait une pause et il s'arrête dans un café où il y a des pimps, des macros qui sont en train de taper sur une table en formica, je crois, et il y a un plan vraiment sur une aspirine en pleine effervescence. Il y a déjà quelque chose de complètement malade dès le début dans Taxi Driver, dans ces ralentis qui sont étranges et qui, on voit, sont une vision fantasmée du personnage. Et de la même manière, j'y pensais pas. Alors, en plus, sachant que William Dafoe fait une courte apparition et que William Dafoe a joué Jésus, ne l'oublions pas, chez Scorsese, la pureté du désert, ça renvoie quand même à toute la partie centrale, et de la fin, avec le rêve, le monde rouge. C'est des choses, en fin de compte, qu'on retrouve dans tous les films de Scorsese depuis le début. Hein, cette espèce de monde rouge aussi, il y a ça dans Alice n'est plus ici. Donc, il y a un côté un peu... Alors, j'aime pas trop le terme de film somme. C'est un
Casino
peu...
aussi, qui est un film très rouge, avec un désert à côté.
Quoi. Ouais, en même temps, alors, si on va sur la question de la couleur et des monochromes, il y en a dans beaucoup de films. De... On peut aller aussi sur Tombeau ouvert. Mais c'est vrai que oui, techniquement, il n'y a pas quelque chose de si lointain de Taxi Driver. Mais c'est vrai que c'est un film qui, à la fois, à mon sens... vraiment va à l'os de cet horizon-là du cinéma Scorsese, mais en plus complexifie l'équation. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus dans les dynamiques, par exemple, des Affranchis, qui est peut-être un film plus aimable, plus connu, mais peut-être un peu moins passionnant que celui-là. Je le dis parce que Aviator a pas été a reçu des... Enfin, c'est un film aimé, mais c'est un film qui a reçu aussi des critiques un peu plus nuancées lors de sa sortie. Et oui, c'est un film, en tout cas, qui creuse un certain nombre d'horizons du cinéma Scorsese, et en même temps... sur certains points va même plus loin que d'autres films de cette période, même s'il y a des films assez passionnants, hein. Les Affranchis qui suit juste après est aussi un film beaucoup plus retors et biscornu qu'il ne l'apparaît. Les Infiltrés, pardon, oui. Les Affranchis, Les Infiltrés est un film aussi qui continue à creuser un peu les cavités des fresques scorsésiennes qui s'apparentent à des objets parfois un peu spectaculaires, efficaces, extrêmement bien scénarisés, mais qui sont un peu plus malades et bizarroïdes que ça, ouais. C'est un cinéaste un peu étrange, en fin de compte, Scorsese, quand on creuse sous le vernis.
Je pense qu'on peut conclure là-dessus.
Hein, ouais. Comme on va. Et puis, alors, on se retrouve le mois prochain. Alors, on continuera avec un avion, puisque ce sera Le Vent se lève de Miyazaki. Voilà.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.